là aussi, on commence à dire stop, j'ai plus envie d'être empoisonné. Donc, vous voyez, il y a une montée comme ça, et maintenant, on est en train de redescendre. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais il faudra encore du temps. Seulement, même si demain on change, ce problème-là, ben, il faudra aussi du temps. Il faudra du temps. Il faut que les terres soient propres. Enfin bon, donc il faudra du temps. Donc maintenant, on travaille effectivement pour l'avenir. On travaille pour nos jeunes, parce que petit à petit, on va revenir sur du bon sens. En fait. Bon. Alors, on parlait donc d'alimentation. Et ça, ça a été l'étude de Corwin Wellington, qui ne comprenait pas pourquoi il y avait à un moment donné des maladies qui n'avaient pas lieu, en fait, pour des catégories d'enfants qui n'avaient pas lieu. C'était simplement, donc il l'étudiait par rapport à un enfant qui avait des carences, qui avait des problèmes alimentaires. Et en fait, c'est sa grand-mère qui avait vécu la famine lors de la guerre, je crois, 39-45, me semble-t-il. Où il y avait des grands blocages alimentaires par les Allemands. Donc les Hollandais ont été en famine. Eux-mêmes, donc, ont souffert. Et c'est le petit qui a finalement exprimé la problématique de la grand-mère. C'est-à-dire que le petit n'a pas manqué d'aliments, mais manifesté des maladies de type famine. Et un problème chez moi que vous connaissez tous, hein, les parents mangent du raisin vert, c'est les petits-enfants qui grincent des dents. Donc, eux, déjà, ils connaissaient ça. Donc, c'est à partir de là que Corwin Wellington a essayé de comprendre le pourquoi du comment. Et, encore un peu plus proche de nous, France Champagne met en corrélation la malnutrition, le stress et l'exposition aux produits toxiques de la mer avec l'état de santé des enfants, voire des petits-enfants. Donc là aussi, on tient compte de plus en plus de cette notion d'épigénétique, c'est-à-dire il y a ce qui est et il y a ce qu'il y a autour. Alors, kinésiologie maintenant. Est-ce que c'est clair pour l'épigénétique? Ça va pour tout le monde?
Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à
l'heure avec le... Voilà. Et maintenant, comme on comprend ça, comme on a ça en information, on peut comprendre ce qui peut se passer maintenant chez les personnes. Encore faut-il accéder à l'information. Mais voilà, quand les personnes le savent, ça va. Mais parfois, c'est pas au courant, parce que ça date quand même de plus longtemps. Mais c'est intéressant.
Est-ce que vous avez un lien avec le décodage biologique?
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Il y a, pour ceux qui connaissent Marion Copland et qui fait les grands rassemblements de Quantique Planète, il y a un médecin belge, ou Van de Bogart, je crois. Comment ? Voilà. Quand vous voyez ce qu'il a fait avec le jeune, là, par un décodage biologique, par plein de choses, revenir sur beaucoup de choses, effectivement, on ne peut pas nier ça. C'est un jeune qui était pratiquement... la médecine le condamnait pratiquement parce qu'il était handicapé, il était en fauteuil roulant, c'était une catastrophe. Et à un moment donné, c'était presque une sorte de matière d'exposition pour la faculté. Il s'en servait presque pour démontrer... voilà. Quand la mère a vu ça, elle a dit non, mon fils marchera et il sera presque normal. Et elle a rencontré donc, ce médecin, Von Bogart, et qui, lui, s'en occupait. Et je crois qu'on peut le voir sur YouTube, me semble-t-il. Oui. Mais c'est assez impressionnant de voir... Alors, l'enfant, je veux dire, vous voyez qu'il est handicapé, mais là, quand même, je crois, il part en voyage tout seul. Je ne sais même pas s'il n'a pas fait le tour du monde. Avec un sac et habillé. Comment ? Il a 30 ans, mais non. Vous l'avez vu ? Je crois qu'il a fait le tour du monde, non ? Je sais qu'il est parti. Hein. Voilà, il fait du déplacement. C'est impressionnant. Alors qu'il était condamné, quoi. C'était, quand vous entendez ce qui s'est passé au départ, vous dites, c'est impressionnant, quoi. Et donc, tout ça en fait partie. Donc, l'épigénétique fait partie, le décodage fait partie, et les techniques de soins, si vous êtes thérapeute, font partie de tout. Il n'y a pas de mystère. Kinésiologie. Tout le monde connaît plus ou moins la kinésiologie ou pas du tout? Si, tout le monde connaît la kinésiologie. Pas du tout? Ah, c'est bien. Au moins un. Alors, la kinésiologie, c'est... Et après, je ferai la conclusion avec le pont kinésiologie épigénétique. Alors, dans les années 30, vous avez trois personnes qui sont importantes au niveau de la kinésiologie. Vous avez d'abord Loewet, un ostéopathe, chiropracteur, qui s'était, lui, spécialisé dans la tuberculose. Et il a mis au point un test musculaire, mais quantitatif. C'est-à-dire, quand il faisait quelque chose, il testait derrière, alors de façon costaud, pour voir justement son travail, ce que ça donnait, si ça tenait ou pas. Et toujours dans les années 30, il y a eu deux autres personnes importantes, il y a eu Frank Chapman et Terence Bennett, qui ont mis en place pour l'un des points sur le corps qu'on appelle des points réflexes neurolymphatiques et des points sur le crâne qu'on appelle des points neurovasculaires. Alors neurolymphatique, ça veut dire qu'en massant certaines zones, ça libérait des petites stases qui bloquaient la lymphe à des zones réflexes, qui travaillaient sur l'organe et qui libéraient pas mal de choses. Et donc, derrière, il avait des réactions relativement intéressantes. Donc lui jouait sur la lymphe, alors que Chapman, lui, s'est intéressé plutôt à la vascularisation, au sang, et c'est au niveau du crâne, en touchant des zones du crâne, qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des améliorations sur certains domaines. Et dans les années 60, donc une trentaine d'années plus tard, Goddard découvre cette relation aussi entre le tonus musculaire et le stress. C'est-à-dire que par rapport à ces choses que l'on dit de façon naturelle, hein, j'en ai eu les jambes coupées ou les bras vont se tomber ou quand vous avez vraiment un choc où il faut s'asseoir parce que on n'a plus de jus quoi. Donc lui il a vraiment mis cette notion de tonus musculaire et état de stress en relation et en même temps il fait cette relation entre les points de Chapman et Bennett et des muscles spécifiques, c'est-à-dire qu'en travaillant il a fait cette relation entre autant les premiers, donc Chapman ou Bennett, c'était juste améliorer là où il y avait des douleurs, alors que lui a mis des relations avec des muscles. Bien. Et au niveau de ces muscles, plus tard, donc, c'était le premier test musculaire, ou test kinésiologique, où lui a utilisé le test de façon qualitative. C'est-à-dire qu'il testait les muscles et il touchait ces zones neurolymphatiques et il voyait ce que ça donnait sur le muscle. Et vous voyez, par contre, ben, si je prends, mettons, le deltoïde antérieur, hein, eh bien, ça ne tenait pas quand il testait. Et puis, en testant certains points neurolymphatiques, tac, le muscle verrouillé. Donc, il a fait un rapport entre les muscles et des points neurolymphatiques ou vasculaires qui existaient depuis une trentaine d'années de ses collègues. Et donc, lui, il a fait plutôt un test qualitatif. Et en même temps, ça lui permet d'évaluer l'état énergétique et de réharmoniser, du coup. Alors, à partir de là, il a conduit aussi à s'intéresser aux méridiens parce qu'il s'est rendu compte aussi que, bon, il était passionné par tout ça, qu'il y avait aussi un rapport entre les muscles, les organes et les méridiens. Et petit à petit, dans son travail, il a fait la relation entre les trois. Et après une quinzaine d'années, il publie son premier ouvrage. Et la kinésiologie appliquée est née. Il faut savoir aussi que, si vous connaissez un peu la médecine chinoise par rapport à la médecine, je dirais, occidentale, nous, on brasse poiré, le pauvre, il est allé déterrer des cadavres pour voir comment était l'anatomie. Et c'est de là aussi qu'il voyait comment les personnes pouvaient mourir, mais c'était sur des cadavres. Alors que les Chinois, eux, prenaient des condamnés à mort. Et donc, c'est un honneur pour le condamné à mort que de servir la science. Et donc, ils ont fait une recherche médicale sur du vivant. Une chance sur deux. Hein. Si on lui retirait un rein, bon, bah, ça allait. Si on lui retirait la rate, ça allait aussi. Si on lui retirait le cœur, ça marchait moins bien. Donc, ils avaient une chance sur deux. Et donc, quand vous regardez bien, si vous étudiez un peu la médecine chinoise, on parle d'entité psychique. Nous, on dit le foie, le cœur, l'estomac. Et on voit ça en tant qu'organe. Non. eux, c'est l'entité psychique. C'est-à-dire qu'en allant titiller l'estomac, en le, maltraitant, si je puis dire, ils voyaient la personne, quel état d'âme, un peu comme Fleur de Bac, si vous voulez. Bac, il se mettait près d'une plante et essayait de sentir l'état d'âme de la plante. Ben, chez moi, faisait pareil un peu avec les cobayes, si je puis dire. Et en fonction de la réponse émotionnelle, mais aussi de malaise, ils ont créé donc les correspondances. Ce qui faisait qu'après, quand ils interrogeaient quelqu'un, en fonction de la réponse, ils pouvaient savoir sur quel organe la personne était plus atteinte. Donc c'était sur du vivant. Alors, c'est un peu hard, mais au moins leur médecine était juste, puisqu'au moins ils savent à quoi ça correspond. Et Goddard avait fait un peu ça, c'est-à-dire qu'en travaillant sur des hommes, alors il a pas tué les gens, lui. Il a juste testé, hein, en contactant les points, en cherchant les méridiens, et en touchant les méridiens, en testant le muscle et les points des méridiens, et bien il a fait aussi un rapport entre muscles, méridiens, puisque les méridiens sont avec des organes, muscles, méridiens, organes. Et à partir de là, évidemment, il y a eu quelque chose d'assez intéressant. Et peu de temps après, on a eu, dans les années 70, le docteur John Key, qui, toujours chiropracteur, hein, puisque ce sont des collègues, hein, c'est des circuits un peu fermés, c'était un homme de cœur, John Key. Et ce qui le désolait, c'était qu'aux États-Unis, pour ceux qui ont vu des anciens films, c'était le père qui disait à son fils « Salut mon fils ». Le gamin, il était comme ça, quoi. Il n'y avait plus cette relation familiale. Il y avait une sorte de déconnexion. Un gamin, il devait tout de suite se sortir du giron paternel et maternel. Et il y avait une sorte d'explosion de la famille. Et lui, ça le peinait. Ce qu'il voulait, c'est retrouver cet état familial. Ce qu'il voulait, c'est que les gens, maintenant, se prennent en charge, certes, mais en même temps, retrouvent un petit peu quelque chose pour revenir dans cet amour, entre guillemets, familial. Et il a créé cette méthode originale qu'on appelle le touch for ease, santé par le toucher, et qui a permis surtout aussi, puis n'oubliez pas qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas tout ça, hein, donc tomber malade, ça posait souci quand même. Et donc il a fait un outil familial d'harmonisation, de prévention, de responsabilité, de responsabilisation, et une autre forme de kinésiologie consacrée au mieux-être était lancé, mais pour le grand public, alors que Goddard, lui, restait évidemment dans le travail des chiropracteurs. Et la kinésiologie, le succès, évidemment, fut immense, hein, mais aujourd'hui, c'est toujours par rapport à John Key, on ne peut pas parler de kinésiologie sans parler de John Key, parce qu'il est vraiment le créateur, si je puis dire, hein, et il y en a partout. Alors, ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? C'est donc kinésio, kiné, mouvement, logie, étude, étude du mouvement. Ouais, d'accord, enfin bon, ça veut dire quoi? Donc, le test musculaire, qui est l'outil principal du kinésiologue, c'est un test qui est neurologique, qui permet de vérifier la bonne connexion entre le cerveau et le muscle. Et la réponse est binaire, ça tient ou ça tient pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on a un grand choc et que... on est vraiment en disant, voilà, j'ai plus de jus. Là, on voit bien que la neurologie n'est plus connectée. Donc, soit la connexion est présente, le tonus permet de verrouiller le muscle naturellement, soit, sous l'effet d'un stress, d'une pensée désagréable, le cerveau déconnecte, entre guillemets, et à partir de là, cette connexion est perturbée, le muscle déverrouille. Voilà. Donc, le test musculaire, c'est ça verrouille ou ça verrouille pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Et donc, c'est une technique qui consiste à pratiquer donc des tests musculaires comme moyen d'interrogation du corps. Et on interroge quoi? L'inconscient. C'est grâce aux tests musculaires qu'on peut à ce moment-là questionner l'inconscient. Parce que si je questionne, si je demande à telle personne qu'est-ce qui se passe, elle va me raconter sa vie de ce qui est conscient, de ce qu'elle sait. Mais tout ce qui se cache derrière, évidemment, en général, c'est occulté. On ne sait pas, ou on ne sait plus. Et à partir de là... ben, quel que soit le thérapeute, on se retrouve toujours devant la même histoire. Le fait d'interroger l'inconscient, le fait d'interroger le corps via ce test musculaire, on va arriver à définir les couches, les strates qui sont cachées derrière ça.
Vous allez faire un test pratique?
100 balles. Oui, je vous démontrerai. Je vous démontrerai. Là, parce que bon, là, je vous dis, la conférence est environ 3 quarts d'heure, et puis après, on aura les questions, et je vous démontrerai ce qu'est le test musculaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, en indiquant la gestion des informations des corps mental, émotionnel et physique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment accéder dans tous les domaines grâce au test musculaire. Et il est fiable, c'est précis, et c'est vraiment cet outil de référence au niveau du kinésiologue. Il faut savoir qu'à partir du moment, je dirais, bon après il y a d'autres choses, mais à partir du moment où il y a conception, c'est comme si vous avez un énorme magnétophone, une énorme cassette vidéo qui se met en route, et tout est enregistré. Et rien n'est oublié. D'accord ? Et cette mémoire, elle est indélébile, seulement on ne peut plus y accéder. Heureusement, parce que le cerveau, il saturerait. Donc, c'est mis dans des petites cases à droite, à gauche, mais ce n'est pas oublié. Et la vraie mémoire, elle n'est pas là. Là, c'est que de la mémoire, je dirais, intellectuelle. C'est une mémoire d'apprentissage que vous avez appris à l'école. Ça, ok. Mais tout ce que vous vivez, c'est là, avec les 5 sens. C'est inscrit dans le corps, dans les muscles, dans la viande. D'accord ? Et c'est pour ça que le test musculaire permet d'accéder à tous ces domaines, à toutes ces choses qui sont engrammées au niveau de notre histoire. Alors, en plus, non seulement on peut accéder à l'histoire, mais quelque part, on peut aussi avoir le choix des mesures, c'est-à-dire comment je vais faire dans les outils que je dispose, quel est le meilleur outil. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous êtes bricoleur, vous avez juste un tournevis et un marteau. Si je dois bâtir la maison, ça va être un peu compliqué. Alors que le professionnel, il a vraiment tout ce qu'il faut, et il va avoir l'outil adapté au travail à faire. Et bien là, le test musculaire va nous permettre aussi de trouver l'outil vraiment juste pour la personne, peu importe lequel. Évidemment, en kinésiologie, on a un tas de possibilités. Mais si vous avez d'autres techniques comme un ostéopathe, comme quelqu'un qui fait du Reiki, quelqu'un qui fait fleur de Bac, peu importe, eh bien, il peut rajouter sa sensibilité, son outil personnel dans la caisse à outils kinésiologique. Et si la personne a besoin de cet outil, c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais aussi au niveau émotionnel. Et donc le but, évidemment, c'est l'équilibre harmonieux des différents systèmes qui permet de garantir l'homéostasie. Voilà. C'est un triangle de la santé qu'on appelle, que vous connaissez certainement, avec le corps mental, tout ce qu'on pense, toutes les suppositions, les choses comme ça, hein. Comme disait hier... Michel Audou, là, la petite voix là, qui est là, qui nous empêche de faire plein de choses. Hein. Ensuite, vous avez le côté émotionnel. Alors, émotionnel, c'est aussi en même temps ce qu'on appelle biophysique, dans le sens où c'est le... On dit le deuxième cerveau, moi je dirais le premier, hein, parce qu'au niveau des neurones, il y en a beaucoup plus ici qu'il y en a dans le cerveau. Hein. Ici, ça doit être 200... je vais dire des bêtises après. Mais c'est impressionnant, le nombre... Ici, c'est par tétraoctet, alors que là, c'est en mégaoctet. Ou mégaoctets. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Même le cœur a plus de neurones que le cerveau. Donc, voilà. Donc on a la notion d'émotion. Et les émotions, quand il y a un problème, c'est là que ça se passe. Hein. Souvent, vous voyez, les enfants, quand ils doivent aller à l'école et que ça ne va pas, ils courent aux toilettes, ou les problèmes, ou c'est constipation, ou c'est diarrhée. Hein. Donc, ça veut bien que c'est là que ça se passe. Et structurel, évidemment, au niveau du physique. Et. Alors, les cercles verts, ben, ça va être aussi la notion, pour ceux qui connaissent, autour du corps, ben, le côté éthérique, si on peut dire, hein, les corps, l'aura, si vous voulez, plutôt aurique qu'éthérique, aurique. Et vous avez, si vous voulez, vous voyez ces flèches rouges, ce qui veut dire qu'on ne peut pas intervenir sur un côté de ce triangle sans intervenir sur l'autre côté. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que si vous avez un problème physique, eh bien, au niveau mental, comment je vais faire pour moi repartir ce soir à La Rochelle? Et au niveau émotionnel, ça va intervenir aussi. Même chose, si je vis quelque chose d'émotionnel, le mental, et c'est peut-être le physique qui va trinquer, si vous voulez. Vous ne pouvez pas intervenir sur un domaine sans qu'il y ait répercussion ailleurs. Et inversement, si vous avez un pet quelque part, ça répercute sur l'ensemble du corps. Donc ce triade de la santé qui
qui symbolise l'équilibre, peut être perturbé par un problème structurel, biochimique, physique. Et peu importe ce qui se passe, hein, il fait beau, il fait froid, il pleut, selon comment je vais réagir avec l'environnement, ben automatiquement, je vais jouer aussi. Si j'ai un problème avec la pluie, en disant je ne veux pas qu'il pleuve, et que je râle parce qu'il pleut, ben automatiquement, je vais faire une déprime parce qu'il pleut. Alors que bon, ben, si je dis il pleut, c'est bon pour mes carottes, ben, c'est bon, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Et donc, au niveau de ces agressions, évidemment, ça va jouer sur la santé à tous les stades de notre existence. Donc, la kinésiologie, le test musculaire, ça permet justement donc, de connaître les besoins dont le corps a besoin, toutes ces carences que l'on peut avoir, mais les carences à tous les niveaux, que ce soit alimentaire, que ce soit des oligo-éléments, mais aussi émotionnel, sentimental, peu importe, toutes les carences. Et en même temps, donc, on peut avoir la priorité d'intervention. Quand, à quelle époque, à quel moment d'origine, l'origine du problème a été inscrite dans la mémoire corporelle, là aussi c'est intéressant parce que vous avez un problème aujourd'hui, c'est pas arrivé ce matin. C'est comme le petit poussé, si vous voulez, il y a eu des petits cailloux sur votre route, au départ c'est un grain de sable, puis petit à petit ce grain de sable grossit, et vous vous trouvez face à l'Everest. Et donc, la kinésiologie, on verra tout à l'heure, il y a des techniques pour aller rechercher tous ces petits cailloux qui ont jonché comme le petit poussé, si vous voulez retrouver le chemin qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et donc, les sens, il faut aller pour rétablir l'équilibre de cette triade de la santé. Bon, ça, vous connaissez, hein, le corps possède en lui toutes ses ressources. Le tout, c'est d'aller chercher la bonne ressource et le moyen d'interrogation pour trouver la bonne ressource. Alors, à quoi ça sert? J'en ai parlé un petit peu. Le but, c'est de libérer les charges émotionnelles désagréables ou négatives liées à un événement, à un conflit ou à un souvenir. Peu importe ce que c'est, si c'est un petit bonhomme là, qui a du mal à l'école, eh bien, il faut savoir que... Alors, je vais peut-être me faire des ennemis là tout de suite, mais les échecs scolaires des enfants reflètent le niveau conflictuel des parents. Bon, je pars tout de suite ou je continue? D'accord, il ne faut pas oublier ça. Donc, même si c'est un enfant qui a un problème d'apprentissage à l'école, ben, il se peut que c'est simplement parce qu'à la maison, il y a un conflit parental, il y a un conflit avec un frère, une sœur, quelque chose qui fait que, ben, au niveau de son cerveau, de ses hémisphères cérébraux, par exemple, il peut y avoir ce qu'on appelle une délatéralité, c'est-à-dire qu'il peut devenir une sorte de dyslexie, uniquement par rapport à ce qui se passe à la maison. Ben, parfois, il décroche, parce qu'il se rend responsable, entre guillemets, de ce qui peut se passer à la maison. Donc, peu importe le problème, ça peut être un problème physique, un problème émotionnel, un problème d'apprentissage, un problème de comportement. Et à partir de là, le but de la kinésiologie, c'est de libérer déjà tous ces schémas émotionnels. Dans quel but? C'est surtout puisqu'on enlève, entre guillemets, le côté émotionnel, c'est pour remettre en mouvement ce qui a été cristallisé émotionnellement dans le corps. Au niveau émotionnel, une émotion... je vais continuer parce que c'est marqué quelque part. Voilà. De ex hors de, extérieur exprimé, et de mauvais mouvoir mouvement. Et quand on est petit, hein, surtout pour les garçons, par exemple, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit d'avoir peur, t'as pas le droit. Pour une fille, évidemment, t'es bien une fille, hein, toi. Pleure toujours. Hein. Moi, j'ai vu des jeunes dames se cristalliser les glandes lacrymales, c'est-à-dire se calcifier les glandes lacrymales pour pouvoir regarder le père dans les yeux sans pleurer. Quand on en arrive là, c'est quand même dramatique. Et donc, on nous a empêchés d'exprimer nos émotions. Et à partir de là, ben, oui, une cocotte minute, ce que ça donne. Hein. Si les émotions ne peuvent pas être exprimées, eh bien, automatiquement, ça va gonfler et autres. Au niveau des émotions, je fais un petit tableau, là, pour que vous compreniez aussi certaines données. Là, vous avez glaçon, eau, liquide, vapeur. C'est trois états émotionnels, si je puis dire. Tout dépend comment... Vous connaissez? Non. Mais tout dépend comment on va voir ça. D'accord? Donc on a trois états d'eau, c'est toujours de l'eau. En fonction de ce qui va se passer, soit c'est glaçon, soit c'est de l'eau liquide, soit c'est de vapeur. Ça, c'est vous, entre guillemets. D'accord ? C'est représenté par cet arbre. Qu'est-ce qu'on va avoir là ? Au niveau des racines, ça va être l'inconscient. Le tronc, ça va être le côté conscient. Et tout ce qui va être les frondaisons, tout ce qui va être au-dessus, c'est le soi, c'est ce que l'on est nous, c'est ce qu'on veut atteindre, entre guillemets. Libéré de toutes nos racines. On est dans l'épigénétique toujours, hein ? N'oubliez pas. Hein ? Donc on a le conscient, l'inconscient, le soi. Le soi, c'est qu'on devrait être libéré de toutes ces chaînes émotionnelles. Le problème, c'est qu'il y a les racines, et les racines, évidemment, elles sont générationnelles, entre autres. Mais il y a aussi tout ça. Tous ces petits points rouges, ce sont les glaçons émotionnels. Tout ce qu'on a cristallisé en nous, tout ce qu'on a gardé, tout ce qui nous bloque, d'accord ? Bien. Ben, je vais vous expliquer pourquoi, parfois, vous travaillez sur vous, faites un travail personnel, et plus vous travaillez, pire que c'est. Non ? Vous dites, bon sang, avec tout ce que j'ai fait, j'en suis encore là. Et plus vous retravaillez, plus je replonge. D'accord ? Eh bien, regardez, vous avez ce niveau de conscience aujourd'hui. D'accord ? Bon, vous faites une séance de kinésiologie, psychothérapie, sophrologie, ce que vous voulez, un peu importe. Mais vous travaillez sur vous. Ça, c'est bien. Vous ne pouvez descendre qu'au niveau de conscience sur lequel vous êtes, au niveau de l'énergie. Vous ne pouvez descendre qu'à cet étage-là. Pas plus. Au niveau, vous voyez ce qui se passe là ? Vous pouvez travailler que sur ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez fondre les glaçons, là. Quand vous fondez les glaçons, vous récupérez l'énergie. Puisque vous récupérez l'énergie, vous augmentez votre niveau de conscience. Donc, ça va mieux. Oui, mais... Je redescends, là. Vous commencez à comprendre, là. Plus que je travaille, et pire que c'est. Bon, ok, je suis arrivé là. Alors j'ai encore gratté une couche, ça a fondu un peu de glaçon. Oui, mais donc j'ai remonté mon niveau de conscience. Waouh, super. Ah ben, pouf, je redescends encore. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène-là. Et à chaque fois, on se dit, mais j'ai encore ça à travailler. Mais plus on descend là, plus on va être dans ce que Jung disait, l'inconscient collectif, donc l'épigénétique. Et Jung disait aussi, tout ce qui est immergé dans l'inconscient sortira un jour de façon destinée ou fatalité. Donc il faut faire sortir ça. Donc on continue hein, jusqu'au bout. Hein, tant qu'à faire, vous êtes un peu maso, donc on va en profiter. Voilà. Et petit à petit, ben, on arrive quand même au fond des racines. Là. D'accord ? Voilà. C'est ça. Allez, juste pour... après, vous prenez pas, c'est pas grave, mais une fois qu'on en est là, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a plus de glaçons. D'accord ? Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes dans le grand soi. Vous êtes à l'état au niveau... Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus émotionnel. Il y a quelqu'un dans la Genèse qui, à un moment donné, marchait sur l'eau.
On est le Dalai Lama, là.
Ouais. Eh oui. Ben, c'est ça, quand on dit Jésus marcha sur l'eau. Ben non, vous avez essayé, vous ? Moi, j'ai essayé. Hein. Ça ne marche pas. On tombe. Mais ça voulait dire que quand on a travaillé sur soi, quand on est libéré, le Dhyana, quand on devient, entre guillemets, le saint, eh bien, l'éveillé, si vous voulez, on marche sur l'eau. C'est-à-dire qu'on est l'état vapeur. On est au-dessus de tout ça. On est soulagé de ça. Vous voyez, c'est une image quand on est marché sur l'eau. Donc, ce que je vous souhaite, hein, c'est ça. Tu prends les rendez-vous, Karine, hein, pour les kinésios, tu as les clientes. Là. Donc c'est ça, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire marcher sur l'eau ? C'est d'être libéré de tout ça, d'accord ? Pour pouvoir arriver à cet état-là. Évidemment, on a toujours peut-être besoin d'un maître, d'un guide, certes, quand on en est là.
On est encore éthéré.
Bah, incarné. Incarné, libéré, éveillé. Alors que là, on est toujours endormi. C'est être éveillé. Mais pas éthéré, au contraire. Non, c'est pas parce qu'on est dans les vapeurs qu'on est éthéré. C'est-à-dire que là, on gère. Quoi. Bon. C'est parlant, ça, cette histoire.
Il y a même un truc
Ah oui, ce petit dessin, j'ai trouvé ça trop joli. Donc l'émotion nous permet de nous mettre en mouvement, évidemment, plus vous libérez l'émotion, mais plus vous vous mettez en mouvement, plus vous réagissez face à l'agression. Et si on ne peut pas exprimer les ressentis, et ben, c'est la cocotte minute, hein. ça vient, à un moment donné, ben, ça va exploser. Bon. Alors, ce qui n'a pas été exprimé s'imprime petit à petit, reste des traces indélébiles dans l'ADN. Et on revient donc à cette notion épigénétique. Ça, peut-être vous l'avez déjà vu en vidéo, hein. Vous pouvez trouver ça aussi sur YouTube, cette vidéo. C'est en Suisse, une université de Linge, en Suisse, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Une trace inscrite dans l'ADN d'une dame qui a été victime d'un viol par son mari. D'accord ? De ce viol est née une fille. Bien. Et cette fille a une fille. Donc, ils ont pu étudier les trois générations. Et au niveau des traces ADN, donc sur les prises de sens, du réel, là, c'est pas de la supposition, eh bien, la trace d'ADN de la grand-mère, on va dire, c'était petit comme ça. Sur la fille, c'était de moitié, mais sur la petite fille, c'était le double. C'est-à-dire que la petite fille a une trace d'ADN beaucoup plus importante que la grand-mère qui elle-même a vécu ça. Quand je disais les trois générations, on se retrouve là. C'est des, ben, là, sur les traces, on voit au niveau d'un chromosome, au niveau des traces, et ben, il y a quelque chose qui est brisé. Et donc, quand ils font le graphique ADN, les pics que l'on voit parfois, et bien, cette trace qu'ils ont isolée dans le graphique où on voit tous les chromosomes, toutes les choses au niveau du plasma sanguin, ben, en comparant la trace de l'ADN de la grand-mère, en isolant cette trace, ils l'ont isolée par rapport à pardon.
Comment on sait que c'est du viol?
Ah, mais parce qu'ils avaient les trois, si vous les ont suivis par rapport aux trois, ils avaient les trois personnes. Les trois personnes étaient présentes. Donc, en mesurant l'ADN, en faisant des recherches en laboratoire sur la grand-mère, comparant les traces ADN de la fille, et en comparant sur la petite fille, puisque les trois étaient là, ils ont isolé, parce qu'après ils ont fait aussi des études sur plusieurs agressions sexuelles.
Donc, des traces comme ça.
Voilà.
C'est toujours la même trace.
Sur des personnes qui n'ont pas eu d'agression et des personnes qui ont eu des agressions sexuelles, dans l'ADN, il y avait quelque chose de plus. Et là, comme ils avaient les trois, ils ont pu suivre les trois, parce qu'il peut y avoir une agression sexuelle sans derrière avoir un enfant, si vous voulez. Là, le fait que viol, enfant, fille, enfin, trois générations de filles. Donc, c'est sur des comparaisons entre des filles, des jeunes dames qui n'ont pas eu d'agression, des personnes qui ont eu agression, et puis là, par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Oui, je dois l'avoir. Après, je vous montrerai. Si vous voulez, je pourrais vous montrer la vidéo. Si ça vous intéresse, si on a le temps aussi. Donc, et c'est pour ça qu'en kinésiologie, ce qui est intéressant, c'est que le test musculaire permet de définir le moment où la graine du traumatisme est semée. C'est ce qu'on appelle la récession d'âge. Et ça nous permet de remonter dans le passé, d'aller rechercher tous ces petits cailloux-là qu'on a semés dans notre chemin de vie. Et de reconnecter, évidemment, le consultant à l'origine du problème, qu'il y ait des souvenirs ou pas. Parce que parfois, c'est pas qu'il ne s'est rien passé, vous dites à la personne, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? La personne dit, je ne sais pas. Elle n'a pas de mémoire. Et c'est logique, le cerveau, il a chanté l'événement. Parce que sinon, il ne peut plus vivre. Il chante l'événement, mais il garde les perceptions de l'événement. Et c'est ces perceptions qui font qu'à un moment, c'est nos Madeleines de Proust. Je ne sais pas si je l'ai noté là. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe, c'est une couleur, c'est une odeur, c'est une chanson, c'est quelque chose, blam, il y a quelque chose qui remonte, hein, comme Proust et ses Madeleines, eh bien, il y a des choses qui remontent, venant de très profond, de l'inconscient, comme disait Jung, et alors qu'il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas de souvenir, c'est ça le problème. Et en plus, surtout si ça date dans la petite enfance, un trauma petit enfant, moi, la personne n'a pas de souvenir de l'événement, mais par contre, il y a ça. Il faut savoir que, qu'est-ce qui fait que ça peut être inscrit ou pas? Il se passe quelque chose, je vois traverser un enfant parce qu'il suit son ballon, il arrive une voiture. Bon, la voiture s'est arrêtée, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas mon enfant. Ça va, une heure après, je ne pense plus. Oui, mais c'est mon enfant. La voiture arrive très vite. Et là, je vais avoir, d'un côté, j'ai la perception par rapport à l'événement, mais là, je vais avoir la perception de l'événement plus l'émotion. Et l'émotion va venir fusionner tout cet ensemble et va cristalliser. C'est l'émotion qui vient comme des métaux, hein, du laiton, des choses comme ça. Quand on fusionne des métaux, l'émotion va venir fusionner ce que je viens de voir. Donc l'événement, la perception de l'événement et l'émotion. Crac. Ça fusionne.
Là, je fusionne tout. Ah, si vous vouliez revoir ça, c'est ça. Voilà.
Bien. Donc, il en dit, la conscience de l'événement, les perceptions de ces événements sont toujours présentes, et c'est son nom, Madeleine de Proust. Voilà. Et encore un petit exemple, hein, sur des études qui ont été réalisées sur le stress vécu de la petite enfance d'une souris qui pourrait laisser une empreinte sur la descendance pendant au moins 2 générations. Et ces empreintes auront des conséquences sur des modifications de comportement, de consommation de sucre et de l'augmentation de la production de certaines molécules dans leur hippocampe. Donc, un événement qui se passe, vous voyez ce que ça peut donner. Et même si le petit n'a eu aucun contact avec des parents conçus par fécondation in vitro, à partir des spermatozoïdes de la souris stressée. C'est-à-dire que la souris ne sait même pas qui c'est son père. C'est juste la transmission comme ça. D'accord ? Et on revient à ce qu'avait fait démontrer hier Michel Oudoul avec les vers. Là. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça va donner dans les générations suivantes de ces vers ? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que si Covette continue l'expérience et sur 2-3 générations allumer la lampe, je me demande si on ne retrouvera pas ça aussi. Alors que il y a l'histoire, pour ceux, si vous connaissez, des singes, l'histoire des singes dans une cage. Vous connaissez cette étude, dont je ne sais plus qui a fait ça, dans un enclos, des singes, et on agrafe au plafond un régime de bananes. Bien fait, évidemment, pour dire, avec une échelle en dessous, pour que les singes grimpent pour aller chercher les bananes. Seulement, quand ils grimpent sur l'échelle, une touche froide tombe. Donc, évidemment, ça ne leur plaît pas. Bon, et ça, en plus, ça noie tout. Donc, ils essayent plusieurs fois, évidemment, mais ça ne marche pas. Donc, au bout d'un moment, plus aucun singe ne monte sur l'échelle, parce qu'ils savent que sinon, ils se font doucher. Au bout d'un certain temps, quand ce réflexe de Pavlov, en fait, ni plus ni moins, est bien inscrit, les chercheurs ont enlevé la moitié du troupeau du singe et en ont mis des 9, si je puis dire, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe là. Bah, la première chose qu'ils font, ils se disent, mais vous êtes cons les mecs là, il y a des bananes là, allez chercher. Et les autres disent, non, t'as pas le droit. Donc dès qu'ils s'approchent de l'échelle, ils se pognent une roustre. Parce qu'ils savent, les autres, que non, t'as pas le droit d'y aller. Donc, ces jeunes-là qui ne connaissent pas l'histoire ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas aller chercher l'échelle, les bananes du moins. Et à un moment donné, ben, à force de se prendre des roustres, cette moitié de population ne va plus dans l'échelle, sur l'échelle. Deuxième phase, les premiers qui restaient, les 50% restés, on les enlève et on remet 50% de singes neufs, si je puis dire, qui eux, finalement, voient la même chose. Ce qui restait, ils n'y sont pas allés parce qu'ils ne savaient pas pourquoi. Mais ils empêchent, de façon naturelle, les nouveaux de monter sur l'échelle. Et à un moment donné, donc à chaque fois, ils retirent 50%. Et à un moment donné, il n'y a plus de mémoire. Plus personne ne sait pourquoi il faut monter à l'échelle. Et dès qu'il y en a un qui met les pieds sur l'échelle, bon, il se prend un coup. Donc vous voyez, une mémoire comme ça, de quelque chose dont ils ne savent pas pourquoi, mais c'est rentré dans l'inconscient collectif qu'il ne faut pas monter sur l'échelle.
Il n'y en a aucun qui soit rebelle et qui décide.
Ah, ben. Ouais, mais si, mais seulement il est tout seul. S'il y en a 20 derrière qui lui sautent dessus.
Bien sûr.
Automatiquement, bon, la fois d'après, il ne va plus, quoi. Il ne va plus. Et bon. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est ça. C'est étonnant, cette notion de mémoire qui s'installe.
Et d'ailleurs, dans nos histoires personnelles, à un moment donné, quand on sent qu'on a cassé un peu cette chaîne, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est le seul acte possible pour que les générations d'après
soient libérées.
Bien sûr.
Et on est dans des systèmes de croyances.
Ah oui,
le singe, c'est un système de croyances qu'il ne faut pas monter sur l'échelle. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais il ne faut pas. Et vous voyez, donc les systèmes de croyances, on ne va pas faire un... Mais la religion...
Hein ? Les chats noirs, il y avait une émission sur
France 2
sur les chats noirs.
Ah ben oui. Allez, on va conclure. Je ne sais pas quelle heure il est, là. Je suis dans les temps. Oui. On va conclure. Le rapport entre kinésiologie et épigénétique, je pense que vous avez compris, plus ou moins. Hein. Donc l'épigénétique, le test musculaire, la récession d'âge, aller chercher en généalogie ce qui se passe, enlever les émotions. Donc l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule de ne pas l'être, en fonction de la couche générationnelle. Et au test musculaire kinésiologique, on peut définir la période où le stress est impliqué, que ce soit dans le passé de la personne, mais aussi dans la généalogie, ça nous permet donc d'agrandir, je dirais, le champ des possibles, comme on dit maintenant. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le décodage biologique, quelque part, même si la personne n'a pas forcément de mémoire, mais c'est rien, après, si elle peut aller se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé ou autre, ça va plus vite au niveau de... Et qu'ils veulent bien en parler. Parce que souvent, c'est statu quo.
D'accord, il y a les secrets de famille.
Secrets de famille. Il n'y a pas pire qu'un secret de famille. Et donc, le fait de remettre en mémoire l'information, de Alors, quand on est en génération, il est bien certain que la personne ne sait pas. C'est-à-dire, mais comment on peut libérer quelque chose alors que la personne n'est pas au courant de ce qui s'est passé 3-4 générations. Mais on est dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, au niveau énergétique. Cette vibration, si vous voulez, qui est là, cette notion homéopathique de l'histoire. Et donc, à partir de là, quand on remet la personne dans le contexte, elle va, entre guillemets, vibrer de ce qui s'est passé à l'époque. Et elle n'a pas de mémoire, certes, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'émotion liée à ça, libérer l'émotion, remettre l'énergie en place, pour qu'après, eh ben, demain, il n'y a plus de souci. Demain, elle soit libérée de ce qui se passait dans le passé. Et en fait, de ne pas être plombé par ce qui s'est passé, mais d'en sortir une pépite, de faire de l'alchimie et de rebondir derrière. Les anecdotes de notre vie, on en vit tout le temps, c'est ce qu'on fait de l'anecdote qui est importante, qui fait des expériences, et comment on vit l'expérience derrière. Quoi.
Comment vous libérez l'émotion ?
De façon simple, hein, en kinésiologie, on travaille, je dirais, le MDR. Ah oui. Ben, depuis toujours. Donc, le MDR, c'est... On travaille sur les yeux, en fait. On fait mouvoir les yeux. Et en fonction du trauma, si vous voulez, les muscles oculaires, quand vous vivez un événement, c'est tout de suite, c'est-à-dire vous le voyez tout de suite. Donc il y a quelque chose qui s'inscrit au niveau de la vision. Si, quand vous étiez petite, il y avait un conflit avec le père, la mère, le frère, peu importe, on se met de façon à ne pas aller voir ce qui se passe là. Donc du coup, là, il va avoir une tendance à aller regarder ce côté-là et jamais ce côté-là. Donc il va y avoir déjà une petite problématique au niveau de la vision. Et même la tête va pouvoir faire comme ça. Ce qui fait que si on demande à la personne de mettre la tête comme ça, ça va être dur pour elle. D'accord ? Donc ça va revenir comme ça. Bien. Eh bien, ces muscles oculaires-là, par rapport à un quadriceps ici, vous avez 60 fibres au centimètre carré. Vous voyez, le muscle est quand même costaud. Ici, c'est à peu près gros comme un ongle. C'est 120 fibres au centimètre carré, le double. Donc il y a une sensibilité, il y a une hiérarchie musculaire. Hiérarchie musculaire, ce qui fait que quand vous avez un problème, en général, quand vous déprimez,
on n'est pas comme ça. Hein.
Quand on déprime, c'est la tête qui tombe d'abord, c'est les muscles du cou, c'est les muscles du visage. Il y a cette hiérarchie musculaire. Donc les muscles des yeux n'échappent pas à ça. Le problème, c'est que ces muscles des yeux sont accrochés à un os qui s'appelle le sphénoïde, qui est en rapport avec l'occiput, qui est en rapport avec le sacrum. Ce qui fait que si un trauma comme ça émotionnel, la personne ne veut pas regarder ce qui se passe d'un côté, vrille le sphénoïde, l'occiput, le sacrum. Et plus tard, peut avoir des lésions difficiles à comprendre tant qu'on n'a pas remis les choses en place. Donc le fait de faire boucher les yeux dans tous les sens, avec des mots, des émotions, pour aller chercher l'événement, si je mets le doigt là, la personne va regarder là. Donc ça veut dire que le problème, il est là. Donc on va insister là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit fluide. Et quand c'est fluide, ça a remis en place le sphénoïde, entre guillemets, et toute la chaîne, ce crânio-sacré se remet en place. Donc le MDR, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours en kinésiologie. C'est, ça libère l'émotion par plein de choses.
Mais si vous êtes victime de quelque chose qui s'est passé trois générations avant, vous n'avez pas de comportement particulier par rapport à ça?
Non.
Donc dans ce cas-là, la personne ne va pas avoir d'attitude?
Non, on va enlever la, je dirais, la vibration. Ce qui reste, c'est-à-dire le côté énergétique, le côté, voilà, ce côté un peu, c'est là, c'est dans l'air, on va dire, et la personne vit à travers ça, elle n'a pas le souvenir, effectivement, elle ne sait même pas, d'ailleurs, c'est même pas la peine d'en parler, quelque part.
Elle n'a jamais tourné la tête, elle n'a jamais rien fait.
Rien, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça, c'est tout, point. Ouais. Eh bien, le fait de remettre en place et de libérer l'émotion va libérer au niveau musculaire. Et après, c'est parti. Quoi. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. La kinésiologie, on fait beaucoup de choses, mais ce n'est quand même pas miraculeux. Ce n'est pas une séance qu'on peut libérer, évidemment, nos problématiques du passé sur plusieurs générations. Moi, j'ai dit toujours, il faut au moins 3 ou 4 séances. Et sur un mois et demi, entre deux, les séances, le temps au corps, de justement gérer l'information, se rééquilibrer et de voir ce qui se passe, de voir, voilà. Donc ça se fait sur plusieurs temps. Si au bout de 4 séances, il n'y a pas d'amélioration, ou ce n'est pas le moment, ou la personne n'est pas prête, ou elle ne va pas abandonner les bénéfices de son problème, dire que moi j'ai un statut, j'ai ça, si j'ai plus ça, j'ai plus de statut. Ou alors c'est parce qu'il faut d'autres techniques derrière pour que tout ça se remette en place. Mais c'est, on peut passer par... constellation familiale, si vous voulez. Si vous connaissez les constellations familiales, quelque part, c'est un peu ça aussi. Hein. Des choses qui se passent, on ne comprend pas, et puis des choses qui se libèrent. Il y a plein de techniques. Hein, plein de techniques. Alors, j'ai pris un exemple, mais simpliste. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent. J'ai parlé tout à l'heure des problématiques alimentaires liées à une famine qui a eu lieu pendant la guerre, par exemple, que Coran Wellington avait définie. Alors, l'anorexie, c'est quand même très délicat. Hein, je ne sais pas si vous avez... connu déjà des personnes qui sont anorexiques, c'est multifactionnel, c'est très compliqué, c'est pas évident, c'est... voilà. Mais donc, c'est juste un exemple, hein, pour reprendre ce travail qu'avait fait Coran Wellington. Et donc, on peut dire que le test musculaire, la restitution d'âge, ben, on va mettre en évidence cette branche maternelle sur laquelle il y a eu la famine, par exemple, et à partir de là... Alors, là, c'est boulimie, c'est anorexie. Mais la boulimie peut être dans le même genre. Puisqu'il y a eu restriction à un moment donné dans la génération, au bout de chaîne, on ne comprend pas pourquoi l'enfant, la personne, a toujours une faim pas possible. Quoi. Ça peut être une réaction derrière. Vous voyez, les deux extrêmes, en fait, c'est pratiquement la même chose. Et donc, il y a cette restriction, il y a des traces inscrites dans l'ADN, on ne sait pas pourquoi, ça s'est réactivé à un moment donné. Et donc, le fait de rebrancher, de libérer l'émotion, même si la personne n'a pas conscience de ça. Le fait de libérer l'émotion, c'est, si vous êtes thérapeute, hein, je ne sais pas si vous travaillez tous, mais vous avez un truc extraordinaire, quand vous demandez à la personne, si vous travaillez, qu'est-ce que vous ressentez? Ben voilà. Voilà la réponse. Vous avez donné la réponse. La personne vous dit rien. Rien. Oui ou non? Et vous savez pourquoi? Je vous donne la définition du ressenti. Quelque chose d'abstrait, difficilement explicable et intimement reconnu. Je reprends. Quelque chose d'abstrait, intimement reconnu, difficilement explicable. C'est-à-dire que la personne, elle est dans quelque chose, elle ressent quelque chose, elle est incapable de dire ce qu'elle ressent. Parce que ça ne lui appartient pas, quelque part. Elle ne peut pas donner le mot. Et la kinésiologie permet justement de... C'est comme si vous avez mis des post-it dans votre corps que vous avez écrit avec de l'encre sympathique. Tellement sympathique, ça s'est effacé. Et votre corps, c'est un post-it. Alors, ce n'est pas les post-it smiley, comme disait Michel hier. C'est autre chose. Et la kinésiologie va essayer d'aller mettre un mot le plus proche possible du post-it. Ce qui fait que le cerveau dit « Ah oui, c'est ça. Ah ben, poubelle. Pouf !» Et ça permet donc de libérer l'émotion.
Est-ce que la kinésiologie, on peut agir avec une autre thérapie à côté, par exemple, pour posséder une facto-thérapie,
Bien sûr, bien sûr. Ah, il n'y a aucun problème. L'hypnose. On peut très bien faire. Si vous êtes travaillez avec l'olfaction, par exemple, c'est un outil de la kinésiologie que vous mettez dans votre panel. Et une fois que vous êtes rebranché ou autre, il suffit de sentir. Bien sûr, il n'y a aucun problème. L'hypnose aussi, quelque part. On peut très bien avoir ces connaissances d'hypnose et faire une séance de kinésiologie. L'outil principal de la personne, c'est l'hypnose. Mais on fait l'hypnose, c'est tout. Voilà, il n'y a aucun problème. Ah oui, oui, complètement. Complètement. C'est vraiment quelque chose de très ouvert. Donc voilà, donc c'est un exemple. Hein. Mais bon, c'est juste l'exemple. Je crois que c'est fini. Oui. Ah,
merci beaucoup.
On a un test concret.
Un test concret. Bah, je vais prendre monsieur, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la kinésiologie. S'il veut bien. S'il veut bien, vous voulez bien.
Oui.
Vous n'avez jamais testé, rien du tout. Monsieur est vierge.
Sans aucun monde.
Alors. C'est bon, je ne sais pas quelle heure il est.
C'est 5h35.
Ouais, d'abord, on est en retard, on a une heure de retard. Hein, d'abord.
Oui,
alors, le test musculaire, effectivement, qu'est-ce que c'est? Quand je vous dis que c'est la neurologie, c'est vraiment de la neurologie. Là, je vais travailler sur le deltoïde antérieur. Pour que ce soit plus simple, vous savez sur quoi je travaille. Je vais juste demander à monsieur qui s'appelle, monsieur Patrice, de maintenir son bras dans cette position-là, sans bloquer, sans rien faire, sans rien. Juste poser. Voilà. Juste comme ça. Moi, ce que je fais, ce n'est pas des pressions très fortes, parce que la kinésiologie, le test musculaire, ça n'a jamais été un test de force. C'est uniquement un test neurologique. Donc, le test est extrêmement léger. Vous ne voyez pas. Mais c'est juste, je cherche le verrouillage. C'est-à-dire, si j'appuie, crac, je ne peux pas aller plus loin. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas aller plus loin. D'accord. Bien. Voilà, relâchez un peu. Relâchez un peu. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, j'ai étalonné, si je puis dire, comme ça, mais je sais maintenant ce qui se passe. Maintenant, je vais dire à Patrice de penser à quelque chose de très sympathique, de très agréable, vraiment de, un bon souvenir. Mm-hmm. C'est OK. Mm-hmm. Là, je vais appuyer très fort. Vous maintenez. Mm-hmm. Voilà. Et j'appuie, je ne sais pas si vous me voyez, hein, j'appuie fort là.
Oui, je crois que c'est plus fort que ça.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Hein,
oui.
Hein, je teste là. J'y vais. Bien, ça tient. D'accord. Ça, c'est le test de l'ouette quantitatif. Maintenant, vous avez pensé à quelque chose vraiment désagréable, un truc qui pourrit la vie, vraiment un truc qui vous arrive.
On n'aurait pas beaucoup de choses à essayer.
C'est bon.
Oui.
Voilà. Allez, c'est bon. Repensez à quelque chose d'agréable, votre truc, là, votre souvenir agréable. Mm-hmm. Vous voyez ce qui se passe? C'est instantané.
Ouais.
Instantané. Repensez à votre souvenir désagréable, ce qui vous crée.
Moi, on m'avait fait mon vrai prénom, puis me faire appeler autrement.
Oui.
Mon vrai prénom, je tenais, l'autre prénom qui n'était pas du tout mien, impossible.
Alors, on sait que ça s'appelle Patrice. Moi, je m'appelle Max Albert. D'accord? Moi, je m'appelle Patrice.
Je m'appelle Patrice?
Oui, ça, c'est vrai. Je m'appelle Max Albert.
Je m'appelle Max
Albert. C'est un bon détecteur de mensonges.
Mais n'importe qui peut être à votre place.
Ben oui. Ah, pour le faire le test?
Oui.
Ah oui.
Si c'est moi qui le fais.
Ben oui. Alors, mais doucement.
Oui, oui, d'accord.
Juste là, dans le sang. Alors, vous ne pompez pas. Juste, vous accompagnez.
Oui.
Et dès que ça déroule, vous arrêtez.
D'accord.
Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dès que ça déroule, vous arrêtez. Tac.
D'accord.
Mais vous restez là, ça déroule. Vous restez.
Ah, mais d'accord.
Et vous insistez un peu. Voilà. Ça marche, vous
savez. D'accord. Oui, oui.
On relâche parce que sinon.
Oui. D'accord.
Allez, je m'appelle Max Albert. Allez-y.
Poussez,
poussez, poussez, poussez, poussez, poussez, poussez.
D'accord. Ah,
ouais. C'est bon, c'est bon.
je m'appelle Adolphe.
Patrice. Allez-y, Patrice. Je m'appelle Patrice. Allez, ouais. Poussez, poussez, poussez.
Ouais,
poussez.
Ouais.
Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas y aller.
Je
ne peux pas y aller.
Ouais, donc n'importe qui peut le faire, en fait.
Et personne n'a d'ambiguïté par rapport à son prénom qui l'aime pas,
si.
Ou qui vit mal.
Si.
Ben oui.
Quelqu'un qui prend un surnom, qui se fait appeler par un autre prénom.
Ouais, non, c'est signifiant.
évidemment, nous, on teste, ça va lâcher. Donc, on demande à la personne pourquoi. Une fois que c'est clarifié, si la personne, on lui dit, je m'appelle Max Albert, je m'appelle Max, par exemple, ou Albert, c'est pas mon prénom. Je peux avoir une réponse qui peut être différente à ce moment-là. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il faut clarifier, puis demander à la personne, bon, il aurait demandé au test, bon, j'appelle comment la personne ? Est-ce que je l'appelle Max Albert ou Max Albert ? Et la réponse va lui donner sur quoi on va aller.
Bien, tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire. On peut demander le numéro de téléphone.
Au moins, on sait si c'est vrai.
Bon, j'espère que j'ai été clair. Que...
Il y a un autre test aussi plus bluffant, c'est l'état des organes. Oui, bien sûr. Parce que, donc, moi, j'ai la maladie de Lyme et un thérapeute m'avait dit... mettez la main gauche sur il m'a dit tous les organes, le foie, les reins, enfin tous les organes poubelles, aucun ne tenait, mais rien. Mon corps, il est complètement vide. Il m'avait dit cerveau droit, cerveau gauche, et un côté, ça tenait parfaitement bien, et l'autre...
Oui, c'est fiable à 100%.
Voilà. Il m'a dit, vous êtes complètement vide, il faut vous requinquer, mais je ne sais pas...
C'est un pendule direct, si je puis dire. C'est un pendule direct, branché. Mais c'est fiable à 100%.
Par contre, le cœur, il tenait.
Oui,
non, mais c'est pour dire, c'était flagrant. J'étais mais bluffé. Ouais. On ne l'avait jamais fait avant.
Merci à tous.
Merci à
vous. Pas de questions ? Parfait.
Parce que ma mère habite à Aix-les-Bains, mais c'est vrai que ça me fait un bon à chaque fois de la région lyonnaise à Aix-les-Bains. Ah, vous avez un aspect.